Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. J'ai vraiment un très grand plaisir aujourd'hui de recevoir un poète en chair en os dans nos studios. Et croyez-moi, il vient de loin. Il vient d'Annecy, où il dirige, où il dirigeait, je ne sais pas s'il est toujours le directeur donc, de la Maison de la Poésie d'Annecy. Et on peut dire que vous êtes, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on dise que vous êtes Michel Dunan, un poète du voyage. Vous préférez dire que vous êtes un peu un pantouflard universel, c'est ça, ou quelque chose comme ça?
Je suis un poète du voyage. Je travaille autour de l'idée de voyage, oui.
Ouais. Voilà. Alors, on va... Moi, j'ai découvert vos poèmes il y a peu de temps, finalement, sur Internet. Ça m'a tout à fait passionné. On a échangé, vous m'avez fait parvenir des livres. Je lirai des extraits dans la seconde partie de l'émission de vos poèmes. Vous ferez aussi une lecture. Vous aimez lire, puisque vous avez d'abord été, avant d'être poète, récitant. Donc je vous laisserai lire aussi vos poèmes, mais avant ça, on va peut-être remonter un peu le fil du temps. Michel Dunan, vous êtes né où, dans quelle famille et comment avez-vous grandi?
Je suis né à Annecy en 1951. Mon père tenait une brasserie entre l'avenue de la Gare et l'avenue de Chambéry, entre la rue de la Gare et l'avenue de Chambéry. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps. Alors, il ne fallait pas entrer dans la brasserie. C'était la salle avec un grand S, comment dire, le Saint des Saints, dans le temple. Moi, alors, je passais beaucoup de temps dans une petite cour. Elle était coincée entre cette brasserie et une poissonnerie. Voilà. Alors, cette cour, évidemment, ce n'était pas terrible. Mais quand j'y pense, voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite cour? Il y avait des murs. Et après, j'ai retrouvé ces murs dans des instants de méditation, méditation zen avec Jocelyne Sensei qui a fondé la demeure sans limite. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cour? Il y avait des galets sur le sol. Alors après, j'ai pensé à ces jardins de pierre au Japon, qu'on appelle jardin de néant. Voilà, donc toute cette petite cour qui n'était vraiment pas, qui était un peu sinistre, sans doute m'a amené plus tard à aimer le rien, à aimer le vide et à faire fleurir le vide et le rien.
Oui, votre poésie est donc extrêmement lapidaire. Je trouve que finalement, cette poésie, c'est comme les haïkus de Bachot. Bachot disait de ses haïkus qu'il ne voulait pas qu'ils ressemblent à de la poésie ou à des haïkus. Et je trouve que votre poésie, qui est une poésie très forte, très dense, elle ne ressemble pas à ce qu'on fait dans la poésie française, à part peut-être, vous l'avez dit, Guy Vic, qui a beaucoup compté pour vous, mais même, moi, je trouve que c'est encore autre chose qui vous rapproche peut-être plus, justement, des poètes zen, des poètes chinois, des poètes japonais. Mmh. Alors, comment avez-vous grandi? Vous avez été donc un enfant qui a passé beaucoup de temps à jouer seul. Il y a un de vos poèmes où vous dites
à
que
jouer
j'ai tout
seul,
joué
à inventer. Seul. Je pouvais donner des messes dans cette petite cour. Je pouvais... J'étais directeur de cirque, en fait. Voilà, il y avait un petit cirque auquel personne n'assistait, sinon une vieille dame quand elle avait le temps. Et en fait, j'ai voulu devenir directeur de cirque. Et d'ailleurs, je le suis devenu. Hein.
Vous êtes devenu
directeur de mon cirque intérieur, évidemment. Voilà. La vie est un peu un manège, un cirque.
Hein. Ouais. Et ce goût du voyage, il vous est venu parce que justement, il y avait ces quatre murs autour de vous.
Oui, je crois. Il y avait deux choses qui me fascinaient. À Annecy, qui me réveillait, c'était là l'arrivée des animaux qui descendaient des alpages ou qui montaient aux alpages et l'arrivée du cirque, justement. Voilà, je guettais ces deux moments. Alors, voilà, il y avait déjà ce désir de voyage.
Oui. Vous avez connu aussi physiquement la montagne?
Je ne suis pas un montagnard. Oui. J'ai dû beaucoup... m'entraîner pour aller au Kirghizistan. Je n'arrive pas à écrire sur mon lieu, Annecy. C'est une ville trop touristique. Mais j'ai voulu faire entrer la montagne dans ma poésie. Et pour cela, je suis allé... vous voyez, je suis bien un piètre poète. Je suis allé au Kirghizistan pour faire entrer la montagne dans ma poésie. Et là, je me suis beaucoup entraîné.
Ouais.
Alors, et quand je parlais de mon lac touristique à mon guide, il se tapait sur les cuisses en disant « c'est pas possible que ça existe, un lac touristique ». Parce qu'au Kirghizistan, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chevaux autour des lacs, deux ou trois yourtes, et c'est tout.
Oui. Les lacs appartiennent aux nuages qui passent et qui s'y reflètent,
oui,
c'est
oui.
ça
mmh.
Michel Dudan, comment ensuite avez-vous, vous avez été un adolescent après avoir été un enfant, vous avez été un adolescent rebelle, celui qui veut tout faire exploser, celui qui veut prendre la route.
Non, très, très introverti, oui.
Avec déjà le goût de la lecture.
Mais sans doute celui qui veut faire exploser son moi, oui.
Oui. Est-ce que vous avez finalement, 1951, allez, vous avez eu 17 ans en 68, 18 ans dans les années 60-70, où il était déjà beaucoup question de l'Extrême-Orient. Est-ce que vous avez fait partie justement de cette vague de jeunes qui ont voulu finalement prendre la route et voir même la route intérieure?
Alors moi, la route, je l'ai prise à l'âge de 17 ans. Je suis allé sur la tombe de Rimbaud avec ma mobylette. Ensuite, je suis allé... Le long du Rhin, je voulais aller à Coblenz et en fait je me suis arrêté, si je ne me trompe pas, près du rocher de la Lorelei. Donc voilà, sur les traces des poètes déjà, Heine et Rimbaud. Et ensuite, comme le moteur tout sautait et je sentais qu'il était grippé, je suis revenu et j'ai passé la frontière à côté de ma mobylette à pied. Voilà, il était temps que je rentre. Voilà.
La découverte de la poésie, elle s'est faite pendant les voyages, avant.
Alors la découverte de la poésie, elle s'est faite à travers une dictée. C'était Émile Zola, L'Assommoir. Il était question de ce gars qui travaillait sur le toit. Et là, c'était la découverte de la poésie. Vous voyez, les dictées, ça a du bon parce qu'on répète sans arrêt. Le prof était un mauvais prof, donc il répétait les choses sans arrêt, sans mettre le ton. Eh bien, c'est là pourtant qu'il y a eu le coup de foudre.
C'est le roman naturaliste, finalement, qui vous a conduit à la poésie, c'est formidable.
Et après,
ça.
j'ai lu Zola à n'en plus pouvoir.
À n'en plus pouvoir.
Mais auparavant, je me suis découvert récitant, parce que, voilà, on aimait bien que je dise des poèmes. Et là, c'était en CE2. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, vous avez dit, à juste titre, il a d'abord été récitant.
Oui. Est-ce que vous
pouvez... Là, j'avais vraiment le goût de la poésie, là, hein, tout de même.
Oui. Le premier poète à vous avoir touché au cœur, est-ce que c'est Rimbaud ?
Oui, je crois, oui. Ou Verlaine, l'un des deux.
Parce que Rimbaud, c'est un frère, hein, vous avez écrit des poèmes sur
lui. Oui. Je voulais aller à Aden, voir la maison où il a vécu... le tri, il s'occupait du tri du café et j'y suis allé. Voilà, et j'ai eu raison parce qu'aujourd'hui on ne peut plus aller sans danger au Yémen.
Est-ce que vous pourriez nous dire un ou deux textes avant qu'on reprenne le fil de la conversation? Est-ce que vous accepteriez de nous faire entendre vos poèmes?
On a parlé de Rimbaud, eh bien je vais vous lire un texte. Au-dessus des deux têtes, un oiseau plane, immobile ou presque, un oiseau jaune et noir. Il sert tant bien que mal de lampe. On peut l'appeler l'argent, le plaisir ou l'amour. Un œil plus grand que tous les autres y voit le messager de la mort. On peut ne rien voir, hormis la tasse à café sur la table en bois. La femme assise et le jeune homme au fond, debout, dans la pénombre. Il n'y a pas d'oiseau. La pièce est aussi nue que la misère. Et le soleil qui court comme un possédé dans les rues bariolées de la capitale. Addis Abeba, la maison de café.
Vous êtes effectivement un merveilleux lecteur. Et moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à prendre le relais tout à l'heure. Mais vous me pardonnerez. Mais je voulais juste le lire pour évoquer Rimbaud. C'est donc dans un livre qui s'intitule « Sacré ». On parlera du sacré parce que c'est extrêmement important chez vous. Alors vous dites « Un tyran, voilà ce qu'il fut. Quel entêté. Le corps s'est rebiffé. Le corps a réclamé sa part. Le pauvre, on le comprend. » Là, c'est la mort de Rimbaud avec, évidemment, cette jambe coupée. Et le corps dont vous parlez est très important aussi dans votre poésie, qui est extrêmement physique. C'est évidemment une poésie de voyage, donc le corps y participe grandement, non ?
Le corps est très important parce que je ne suis pas dans le corps, justement. Donc j'en rêve de ce corps. Et dans ce livre, j'ai dit « habiter son corps ». Voilà, Ça, pour moi, le jour où j'ai habité mon corps, après, bon, bien sûr, ça n'a plus été le cas, mais ça a été un grand... Voilà, c'était l'aboutissement du plus merveilleux des voyages. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé en Afrique, parce que l'Afrique, c'est le corps, l'Afrique, c'est l'instinct, l'Afrique, c'est la danse, l'Afrique, c'est l'amour, comme c'est l'instant aussi, comme c'est le sacré. Oui, le corps, c'est important, mais le corps, je n'y suis pas toujours. Et pourtant, Vénus Kurigata me disait, quand vous parlez du corps, vous êtes percutant. Alors ça m'avait fait sourire.
Le corps, on le découvre...
On ne parle bien que de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Enfin, est-ce que je dis une bêtise? Je ne sais pas.
Non, je crois que vous n'avez pas tout à fait tort. Oui.
Comme je parle de l'instant, mais comme vous le dites, je suis... Voilà, je suis aussi quelqu'un qui pense beaucoup à hier, à demain. Et c'est pour ça que je parle de l'instant, parce que j'aimerais bien y être dans l'instant. Mais tout à l'heure, à Chartres, en visitant à nouveau cette magnifique cathédrale, j'étais dans l'instant.
Oui.
Difficile de ne pas l'être.
Oui, parce que là, je le dis à nos auditeurs, il est pratiquement 17h lorsqu'on enregistre cette émission. En fait, vous êtes arrivé à Chartres le matin. Ce matin, très tôt, en catimini, et vous êtes allé comme ça à la découverte de la ville. C'est ainsi que vous procédez généralement?
Oui, j'ai visité le fabuleux musée du vitrail, la collégiale Saint-André, si je ne me trompe, et puis je me suis promené dans cette ville pour venir ici. Alors ici, très curieusement, j'ai appris qu'il y avait un ancien couvent de la Visitation. Alors moi, il faut savoir que de mon balcon, je vois la maison de la galerie où a été fondé l'ordre de la Visitation.
Voilà une
Alors,
synchronicité
est-ce que le hasard existe? Je vous le demande.
Je disais, donc le sacré est extrêmement important. Effectivement, il y a beaucoup de références au sacré, à des voyages, par exemple. Je pense notamment à Pondichéry. Alors Pondichéry, pour beaucoup de gens, c'est la ville de Sri Aurobindo. C'est la ville où il a fondé son ashram. Vous avez beaucoup voyagé en Inde. Je voudrais qu'on parle de l'Inde parce que... Elle a marqué tous ceux qui y ont voyagé, ce n'est pas mon cas, mais...
Oui. J'ai non seulement voyagé en Inde, mais je me suis intéressé à l'hindouisme. Et à travers la rencontre d'une personne qui est assez connue ici, l'ashram n'est pas très loin, qui s'appelle Ama.
Ah, bien voilà. Évidemment, oui.
J'ai eu le Darshan, etc. Donc si je peux parler de ce pays, c'est parce que je me suis intéressé à l'hindouisme. Oui, je suis allé dans le nord, je suis allé dans le sud, à Madurai et à Pondichéry.
Oui. C'est étonnant, il y a ici un homme qui fait des émissions à la radio, j'ouvre une parenthèse, mais dont la vie a totalement changé après avoir reçu le Darshan d'Amma. C'est curieux. Hein?
Oui, je parlais du hasard, vous voyez. On peut.
Qu'est-ce qui vous a conduit en Inde, en fait? Le premier voyage, c'était quand?
Oh là, je ne sais pas, je n'ai pas tout noté, oui. C'était assez ancien.
Oui.
Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé lors du dernier voyage, qui remonte quand même à 7 ou 8 ans, que l'Inde avait beaucoup changé. Alors je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est l'Inde qui a changé? Enfin voilà, j'ai été un peu mal à l'aise.
Oui. Vous l'avez trouvé changé, c'est-à-dire vous la trouvez...
Dans une procession,
un
religieux qui regardait sa montre, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup... Ou qui regardait son portable, peut-être, ça m'a... Ouais, voilà.
Vous avez découvert l'hindouisme, et ensuite, je crois, le bouddhisme aussi, qui vous a marqué.
Oui, je m'intéresse à toutes les religions. Oui. J'ai même rencontré le chef suprême de la religion vaudou, à Ouéda, au Bénin. Toutes les religions m'intéressent. J'ai rencontré des chamans, voilà. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré le pape, enfin je l'ai croisé à Annecy, il est venu à Annecy, j'ai croisé le Dalai Lama, enfin bref.
Vous avez aussi...
Et j'entre dans les mosquées comme j'entre dans les églises.
Oui, vous le dites.
Je me suis intéressé beaucoup à la poésie soufie. Là je vais faire une lecture prochainement à Genève de Rumi.
Ah oui.
Voilà, une association afghane m'a fait appel à moi.
Oui. Pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé le fameux ordre des derviches.
Les derviches tourneurs.
Mevlevi.
Et il y a quelque chose du derviche chez moi.
Voilà. C'est-à-dire, dites-moi.
L'envie de bouger sans cesse, d'être en accord avec le cosmos, de tourner. J'ai un texte là-dessus, peut-être que je peux vous le lire.
Oui,
hein. Il parlera mieux que moi. L'amour est mon pays, mon univers. Chacun voyage à sa façon. Moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un vieux derviche illuminé. Tombeau de Melvana, Rumi, Konya, Turquie. Voilà, les poètes de l'ivresse me parlent beaucoup.
Oui.
Il faut être toujours ivre, hein, dit différemment de moi sans doute Baudelaire.
Oui. Et Nietzsche aussi, hein, l'ivresse comme état fondamental de l'homme. Alors
En plus, mon père avait une brasserie, et là, bon, vous voyez, j'étais encore dans une brasserie tout à l'heure, là, il y avait quelqu'un qui était complètement ivre. Bon, c'est une autre ivresse, mais tout de même, on sent que l'ivresse, c'est un besoin. Ça peut passer par le vin, mais ça peut passer par la religion.
Oui. Vous parliez des derviches. Le derviche, quand il danse, il a une paume tournée vers le ciel et une paume tournée vers la terre. Vous, c'est pareil, c'est-à-dire que...
Cette main tournée vers la terre, je ne l'avais pas trop. Et
ouais.
Je suis passé par une psychanalyse pour atterrir, vous voyez.
Alors, voilà,
c'était assez efficace, d'ailleurs.
C'était efficace.
Oui.
Parce que là, il y a ce poème encore...
Sinon, peut-être que j'allais dans le mur. Hein.
Oui.
C'est un derviche qui va dans le mur.
C'est une époque où peut-être on osait tout, non ? Plus que maintenant. Le voyage, parfois les substances illicites aussi dans les années 70.
Oui, je pense, tout le monde le dit.
Oui.
Donc, je vais finir par le croire, je crois que c'est vrai.
Je me permets juste d'extraire de Sacre ce petit poème. C'est sur le tombeau de Sri Aurobindo. Cours de l'ashram, on a l'impression de marcher sur un nuage, et pourtant c'est tout le contraire, on prend racine. Vous avez toujours voulu prendre racine. Je repense à Guilvy, que vous aimez beaucoup, qui dit dans un de ses poèmes, il s'est toujours agi de prendre pied. Vous avez toujours eu cette envie de...
Je me souvenais plus qu'il avait dit ça. Enfin, de Guilvy, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Il faudrait partir dans le rester. Et c'est ce... Ouais.
Vos livres sont très excitants aussi pour l'esprit, parce qu'on y croise des grandes figures, soit de la religion, soit de la poésie. Vous êtes en dialogue permanent aussi avec les figures de l'art aussi.
Souvent, il y a les noms des autres, mais c'est toujours moi qui écrit. Hein. J'avais lu dans une note de lecture... on disait que de temps en temps c'était moi qui écrivais, de temps en temps les autres. Non, c'est toujours moi qui écris. Je leur prête des paroles. Hein. Comme ils sont morts, bon, ils m'en voudront pas. Voilà. Il faut dire que j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai beaucoup endossé la peau des autres. Hein. J'ai eu du mal à savoir qui j'étais, qui je suis. D'ailleurs, j'ai écrit récemment, je ne sais pas qui je ne suis pas. Je ne sais pas qui je ne suis pas. Oui, voilà, c'est ça, exactement ce que j'ai écrit.
Et c'est une question qui vous taraude ou vous vivez avec ?
Non, parce que je crois que Pessoa, ça veut dire personne, hein, c'est le nom d'un grand poète, donc je suis un peu tout le monde. Mais par exemple, voyez, on parle de la religion, je suis tout de même chrétien avant tout.
Oui.
Mais en fait, je suis très ouvert, trop ouvert, et parfois, bon, voilà, ça me pose des petits problèmes. Trop curieux, trop de routes à la fois. C'est, je crois, Guy Goffet qui disait que j'ai envie de prendre toutes les routes à la fois. Je crois qu'il a écrit ça.
Et vous l'avez fait en partie.
Oui, mais pas dans la folie. Hein. Oui. C'était plutôt un exercice de compréhension du monde.
Oui. Qu'est-ce que vous retenez du christianisme ? Moi, il y a une figure que j'aime beaucoup, qui n'est pas vraiment chrétienne, qui est juive, mais qui est quelqu'un de fascinant, que nous aimons tous beaucoup ici, c'est curieux, vous voyez, à Radio-Rancel, c'est Eti Ilesum.
Oui, je l'ai cité. Là.
Vous l'avez cité, justement, au début d'un de vos livres. Qu'est-ce que vous aimez chez Eti Ilesum, qui est, c'est pareil, elle n'est pas réellement reliée à une religion.
Oui, tout à fait. Ben, elle me touche parce qu'elle a vécu des années terribles et... Voilà ce qu'elle dit, c'est plein d'espoir. Moi, j'ai un père, et ça, j'ai hérité de lui, qui a connu pas les camps de concentration, ni les camps d'extermination, mais les camps de représailles. Et ce fut un grand voyageur. 6000 kilomètres parcourus à pied, en camion, dans les charrettes à betteraves, et surtout en wagons à bestiaux plombés. Hein. C'était un multi-récidiviste de l'évasion. Alors ces gens, on les envoyait dans un camp terrible, le camp de la goutte d'eau. Il y avait un robinet pour 10 000 personnes à Ravaruska en Ukraine. J'y suis allé dernièrement et un livre paraîtra. Voilà. Alors si elle Etim me touche, c'est parce que aussi il s'agit de ces années-là qui me touchent beaucoup.
Et puis chez Etilisson,
elle en parle, voilà.
Ouais.
Elle, ça devient comme une, je vais dire une énormité, mais c'est presque une chance au niveau spirituel.
Ouais. Rappelons, juste pour les auditeurs, donc c'était une jeune intellectuelle juive, finalement, vivant aux Pays-Bas, et qui a été déportée presque volontaire, puisqu'elle n'a pas du tout essayé d'échapper à son sort. Elle l'aurait pu, et puis elle a été dans un camp de transit à Westerbork, d'où elle a écrit des lettres absolument extraordinaires. Elle tenait ce journal qui a été publié récemment. Et c'est une femme tout à fait étonnante qu'on voit à Westerbork qui vit justement ce que vous cherchiez et ce que peut-être cherche tout poète. C'est aussi la saveur de l'instant présent, c'est-à-dire sans peur alors qu'elle allait être...
Et ça, je pense que j'ai hérité ça de mon père. Pour lui, ça a été une école de patience, de modestie et peut-être de sagesse. Il a eu... S'il est allé à bas, c'est parce qu'il avait le goût de la liberté, hein. Et de la résistance.
J'aurais peut-être dû commencer par là. Votre père, c'est quelqu'un d'important dans votre vie.
Oui, il est mort il y a peu de temps. Il était président au niveau Savoie-Dauphiné de cette association, ceux de Ravaruska. Vous voyez, on me propose actuellement de prendre la suite, là, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la présidence, de la présidente... et des personnes qui ont pris la suite. Donc il a compté. Mais c'était quelqu'un de très, très silencieux. J'ai hérité ça de lui.
Oui. Vous êtes quelqu'un qui... Ouais, vous ne parlez pas beaucoup dans la vie, vous regardez, vous écoutez, vous êtes attentif.
Oui, j'aime écouter. Comme dit Stéphane Zweig, comprendre plutôt que juger. Mais de temps en temps, il y a chez moi de l'huître et du volcan. D'ailleurs, j'ai un livre qui peut-être s'appellera L'huître, le volcan. Voilà, mais enfin, une huître, ça donne des perles. Et ces perles, ce sont peut-être les poèmes.
Les poèmes, oui. Mais le volcan, lui, comment se manifeste-t-il ?
Pas par la colère, mais il y a quelque chose de rentré qui, à un moment, sort. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de la pratique de la poésie, parce que votre premier livre, vos premiers poèmes datent de quand ?
Alors, j'ai écrit Péril en l'ocre jaune et Dernière nouvelle de la nuit qui le précède en quelle année ? C'est sorti en 89. Et là, vous voyez, ça parle pas du tout du voyage, sauf ce texte que je vais peut-être vous lire.
Ah oui, avec joie.
Voyage au bord du poème. Vous voyez de quel voyage il s'agit ? Dans le fond, c'était le... Voilà, mon univers, c'était la page blanche, ensanglantée. Donc, et un jour, je me suis trouvé à Pise et j'ai écrit un poème. Alors, je me suis dit, c'est merveilleux, parce que finalement, je suis heureux d'être à Pise et en plus, j'écris un poème. Alors que là, avant, c'était vraiment, mais, oh là là. Alors, le voyage, vous voyez, de quel voyage il s'agit? Voyage au bord du poème. Lentement, le quai s'éloignait. Si longue l'attente. Il avait tant broyé de blanc qu'il ne parvenait à y croire à ce départ. Au crissement miraculeux des mots. Le crayon mouchetait la page. Il s'avéra bientôt, malheureusement, que ce nouveau voyage était semblable, ou presque, à tous ceux qui lui avaient été donnés de faire. Et le poème, à l'arrivée, lui souleva le cœur du déjà-vu. Le tout à s'enfermer des jours durant pour rectifier le paysage.
Ah oui, donc ça a été... Cette première expérience poétique, une grâce et en même temps, déjà, une insatisfaction profonde.
Oui, sinon j'étais parti pour écrire entre quatre murs et voilà, me lamenter lorsque la page est blanche. Donc, ouais.
Ça, c'était le premier livre. Et ensuite, tous les autres livres qui ont suivi.
Non, le suivant, on est déjà un peu plus dans le voyage. Il y a une petite série de textes qui s'appelle « Cet instant, S-E-P-T, cet instant paré pour l'éternité ». Voilà, c'est... Là, on est un peu dans le voyage. Mais... Bon, il y a du voyageur en moi, mais il y a aussi du casanier. Il y a un sage et il y a un fou. Hein. Alors, c'est pas évident de conduire un attelage avec tous ces chevaux.
Quand vous restez chez vous, votre journée se déroule comment ?
Ah, j'anime une revue depuis plus de 30 ans, la revue Coup de Soleil. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Il y a la maison de la poésie, il y a le courrier. Oui. Donc, voilà, mais c'est... Ce n'est pas sans crispation.
La pratique de la poésie est quotidienne chez vous ?
Non.
Qu'est-ce qui peut la déclencher, finalement ? Donc, parce que les voyages que vous avez faits, vous avez écrit sur place ou c'est... ensuite, de mémoire.
D'abord, je ne suis pas allé partout, je dois le dire, mais j'ai beaucoup voyagé en Afrique noire, par exemple, 6 ou 7 destinations. J'écris parfois après. Il y aura peut-être quelque chose sur Charles, je ne sais pas. J'écris parfois avant et après j'annule le voyage parce que j'ai déjà écrit. C'est arrivé.
C'est vrai.
Là, c'est vraiment à une époque où j'ai voyagé pour écrire. Donc, ça n'avait plus d'intérêt. Si le poème naissait avant, ce voyage.
Alors,
je ne sais pas, ça, oui. Comment ça vient ? Je ne sais pas.
Quels sont les...
Mais ça vient souvent quand je me mets en marche. Ça, c'est clair. Quand je pars.
Ouais.
Aussi quand je vais voir une expo, hein, parce que j'ai beaucoup voyagé. Ma poésie, c'est un voyage perpétuel, comme l'a dit, je pense qu'il a raison, Didier Pobel, mais c'est un voyage sur plusieurs plans. Et c'est un voyage qui s'inscrit dans le grand voyage de la vie. Hein, où allons-nous ? Que sommes-nous ? D'où venons-nous ?
Est-ce que vous demandez à la poésie justement de répondre à ces questions ou non, simplement de vivre le mystère ?
Non. J'ai beaucoup écrit par rapport à la peinture et là c'est vrai que je peux écrire chez moi en consultant des ouvrages, mais rien ne vaut l'exposition. Demain je vais voir l'exposition Gauguin.
Oui.
J'aimerais faire entrer l'Océanie dans ma... Dans ma poésie, j'ai écrit des textes qui se situent sur tous les continents, mais il n'y a pas d'Océanie pour moi. Ouais.
Vous amenez vos livres, mais vous avez aussi amené les journaux de voyage de Bachot, vous l'avez lu dans le train. Bachot, maître du haïku, les grands poètes de haïku, les japonais, mais les poésies chinoises de l'époque Tang, ce sont vos frères de voyage.
Oui. Moi, j'ai été inspiré par les poètes de l'amour. Il y a des poèmes d'amour, oui. Jean Sacre, Alain Borne, Jean Malrieux. J'ai été inspiré par les poètes de la fraternité, Neruda, Hikmet, Rizos, par les poètes de l'Asie centrale, Rumi, Saïd Bahouddin Majrou, Younous Emre, mais aussi par les maîtres du texte bref.
Oui.
Moi, je n'écris pas de haïku. Hein. Oh. Non, je suis...
Non, c'est autre chose.
Oui. Mais les maîtres du texte bref me parlent. Oui, j'ai une poésie liée à l'instant, donc forcément, j'écris court. Ouais. Alors, Bachot, oui, je peux lire simplement la fin de ce... C'est à la fin d'un des derniers voyages, il écrit ceci. Intelligence et sottise, artifice et naturel, ne sont également partagés, mais ce monde n'est-il point demeure d'illusion ? Ensuite, il retourne à l'instant présent, là d'y réfléchir, je me suis couché, et il écrit un petit texte. À l'ombre me fit des chênes tutélaires au bosquet d'été. Oui, tout ça pour dire que le voyage, on en revient avec, voilà, on en revient plus mûr, plus léger, plus lucide. Il écrit ceci aussi, « En fait, que ce soit pour vivre en montagne, que ce soit pour voyager, point n'est besoin de s'encombrer d'accessoires. Un chapeau de cèdre de Kizo, un manteau de pluie de Carex, de Cauchy, voilà tout ce que j'ai suspendu au pilier de mon chevet. » Voilà.
Vous aussi, vous voyagez léger quand vous voyagez?
Non. J'emporte tout, moi, dans la valise. Et parce que je ne sais pas d'avance ce que je vais mettre. Vous voyez, ouais. Je n'arrive pas à me projeter. Voilà. Alors, comme certaines femmes, et un peu comme ma mère, j'emporte tout.
On voit ce qui vous plaît aussi.
Mais ce qui m'a intéressé, là, c'est que Bachot, ben oui, voilà, pour lui, le voyage, c'est une école, et il en revient plus léger, plus lucide, et toujours fidèle à l'instant.
Oui. On arrive, Michel Dunant, au terme de cet entretien. Je vous remercie d'être venu nous voir, et peut-être qu'on se reverra, et puis on attendra...
Si on a encore une minute, j'aimerais lire deux textes.
Je vous en prie.
Sur des cathédrales, puisque là, je viens d'en voir une. Où il est question de l'art de voir. Il faut manger lentement. La beauté n'a pas de goût quand on a tendance à dévorer la vue. De la cathédrale à la cathédrale, Canterbury. Et puis, ceci. Les pans du paradis. P-A-O-N-S. La pierre usée de la cathédrale a revêtu ses habits bigarrés, primitifs. J'apprends que le manteau des anges avait autrefois la couleur de ta bouche, alors que le bleu délavé, savoureux de ton regard, est celui de l'enfant que sa mère offre à l'univers au beau milieu du portail de droite.
Oh, mais c'est presque...
Amiens, la cathédrale en couleur, 15 août 2001.
Pardon, je vous ai interrompu. Mais ça ressemble beaucoup à Notre-Dame de la Belle-Verrière qui se trouve portail sud de la cathédrale de Chartres. Michel Dunant,
merci de m'avoir reçu.
Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir. On écoute un peu de musique et puis je vais continuer de lire à nos auditeurs de vos poèmes extraits de plusieurs recueils que vous m'avez aimablement offerts, qui sont très beaux. Je donnerai toutes les références de ces livres en fin d'émission. Un grand merci à vous. Le tout dernier, qui s'intitule « Miel », notamment, publié aux éditions Henri, notre ami Jean Le Boël, qu'on salue ici.
C'est lui qui m'a mis en lien avec vous, donc je te salue, Jean. Et je salue aussi Jacques-André, qui est un grand ami. Jacques-André, éditeur.
Jacques-André, éditeur. Merci beaucoup. Sacre de Michel Dunant. Rien ne sera changé que moi-même, Henri Miller. Sacre. Un supplément de corps. Un petit supplément de corps. C'est tout ce que je demande. Enduis-moi de sueur, de parfum, de couleur, de baisers. Fais-moi vivre, exister. L'âme ira se poser par surcroît, par amour. Un oiseau viendra pour m'habiter. Rendre au corps ce qui lui appartient, son pouvoir, sa splendeur et sa gloire. Je réveille un volcan coupé de son passé. Je caresse un géant, je pétris un soleil, mon amour, mon soleil assassin. Attendre est un métier merveilleux. Je pourrais t'attendre indéfiniment, j'ai l'éternité devant moi. Prends ton temps, tout ton temps, fais-toi belle, ineffable, intangible. on ne fleurit que peu à peu. Je me vois très souvent. L'amitié se révèle, il faut bien l'avouer, bénéfique et sacrée. Relation, relation, je t'adore. L'amour existe. Est-ce une raison pour ne pas l'inventer? Pourquoi ne pas transformer l'or en or pur? On ne peut pas parler d'amour ou de désir. J'arrose un feu dans ma poitrine. Il n'est question que de survie. Un rêve, enfin, se réalise. Habiter son corps, c'est habiter quelque part, enfin quelque part définitivement. Trouver le lieu, la maison par excellence. Mon cheval de bataille est l'amour intégral. Mon credo l'interdit. Suivez-moi, chenapant des chemins de traverse. Un amour véritable est toujours, toujours hors la loi. Miel. Un pot. Trop petit pour la soif. On reconnaît bien la Van Gogh. Mur nu, d'un ocre un peu sale, un peu gras. Vivacité des fleurs, des feuilles. On voit des iris, la tête en bas. Le beau va jusqu'à lécher la table. Oui, c'est lui. C'est Vincent. Iris sur fond jaune, Saint-Rémy, 1890. Le jardin de Daumigny, Auvers, 1890. On sent le crème, on sent le blanc. Le rouge éclate au milieu des verts, verts crus du jardin, verts de la maison léger, celui de la clôture, insignifiante, un rien visible. Van Gogh, Amsterdam. Nous avons tous un jour fumé sa pipe ou chaussé ses gros souliers boueux, marché dans la nature à ses côtés, le cœur ébouriffé, sans itinéraire en tête et, si ce n'est celui de l'accompagner, sans but précis. La vie vaut le coup près de lui. Tout devient plus tendre, habité. Champ de blé au corbeau. Auvers-sur-Oise, juillet 1890. À Guy Goffet. Trois chemins, fauchés dans leur élan, tranchés nets. Trois chemins sans issue, sans lendemain. La mort, visage à découvert, avance en procession, dans un ciel sombre, orageux. Tableau sonore, on entend les corbeaux, le blé gémit, corps souffrant, flagellé. Toujours extrait de miel. Maison basse en bois blanc, soir d'été, petit morceau de lune. On voit deux personnages à moitié debout, le dos dans le noir près d'un pilier. Que va-t-il se passer? Que s'est-il passé? Place à mon film, à mon univers, moteur. Le peintre a pour sa part planté le décor avec génie, réglé les projecteurs. Le couple est en place. Édouard Hooper, soir d'été 1947. Voilà, vous l'aurez compris, Michel Dunant écrit beaucoup à propos de l'art. C'est un grand amoureux de l'art et des artistes, des toiles. Et son regard sur Van Gogh ou sur Hooper sont tout à fait singuliers. Je vous conseille de les découvrir. Dans Miel, son dernier ouvrage publié aux éditions Henri, et puis je vous ai lu des extraits de Sacre publié aux éditions Jacques André. Jacques André qui a accompagné fidèlement Michel Dunant ces dernières années avec notamment un autre recueil intitulé Les Toits du Cœur, mais il y a aussi chez Edith Inté, Tout est dit, enfin une œuvre déjà conséquente que celle de Michel Dunant, et je le remercie encore de nous avoir accordé une demi-heure d'entretien. Il est venu d'Annecy à Chartres pour réaliser cette émission de radio et j'en suis tout à fait heureux. J'espère que ce bonheur est partagé avec vous. Voilà, on écoute un peu de musique et puis vous retrouverez vos chroniqueurs de choc, Claude Verset et Cécile Guivarch. C'était le merveilleux Thierry Titi Robin. Je vous laisse avec l'ami Claude Verset suivi de Cécile Guivarch. Deux coups de cœur pour le prix d'un.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Et comme tu le rappelles de temps à autre, Christophe, je représente ici la revue des charges, revue publiée en Bourgogne. Eh bien, je resterai aujourd'hui en Bourgogne pour vous parler d'une poète et d'une maison d'édition bourguignonne toutes deux. La poète Colette Andriot, auteure en particulier d'une trilogie parue au long de ces dernières années aux éditions Gros Texte. Cette fois, elle nous entraîne au gré du gris des jours, c'est le titre, au gré du gris des jours, qui paraît à l'atelier des Noyers à Dijon. Je note au passage que la Bourgogne compte désormais plus de maisons d'édition que jamais. À côté des anciennes, les éditions Obsidiane et La Renarde Rouge, on a vu surgir, il n'y a pas si longtemps, La Tête à l'envers, dans la Nièvre, et Paysage intérieur, à Dijon. Et plus récemment encore, Blanc Volant s'installait à Sens. Blanc Volant qui, à l'instar de l'atelier des Noyers, entend faire dialoguer auteurs et plasticiens dans leurs ouvrages, ce qui donne forcément à la réalisation de ceux-ci un nécessaire caractère de livre d'art. Ainsi, pour en revenir à Colette Andriot, on la trouve accompagnée de la jeune artiste Annick van Rentergem. Au gré du gris des jours de Colette Andriot, trouve tout naturellement sa place dans la collection des carnets de vie de l'atelier des Noyers. Carnets de vie qui font écho à Carnet de notes, titre de la plaquette que la poète publia dans la collection Polder en 2001. Et aujourd'hui encore, on peut définir les textes de Colette Andriot autant comme des notes tirées de ses carnets que des poèmes. C'est souligné ce faisant un parti pris de modestie qui suit la leçon de Jean Tardieu, leçon rappelée en exergue. Se méfier des mots trop beaux, trop reluisants, Elle est remplacée par les mots les plus simples, les plus usés, même les plus plats. Cette esthétique étant au service, ne nous y trompons pas, d'une pensée politique, d'un désir de mettre la poésie à la portée de tous. Voyez, semble dire la poète, tout un chacun ne peut-il en faire autant? Quoi de plus simple en apparence, mais faites comme moi. Je ramasse, je cueille, je glane, des bribes, brindilles, cailloux, peut-être des sources. Un des poèmes les plus longs du recueil a valeur d'autoportrait. Je le lis. Être une trouveuse de mots, une diseuse de tous les jours. Je soulève les pierres de la banalité quotidienne, à la recherche d'une petite beauté, comme celui qui braconne les truites argentées dans les tumultes du torrent. Au fil des pages, et au gré des jours, peu à peu s'impose la tonalité majeure, celle du gris, en correspondance de laquelle Annick van Rentorghem ne craint pas de peindre une forêt des plus réalistes, où l'on entre dans la pénombre. Dans la pénombre, là je cite, celle de l'âge mûr, dit-on, mûr comme d'un fruit, d'un temps compté, dont les rides sont autant de notes prises au déroulé des ans. Et je terminerai avec ce poème conseil de Colette Andriot, poème de trois vers, toujours se poser des questions, se méfier des réponses trop rondes. Eh bien, on peut se procurer au gré du gris des jours de Colette Andriot aux éditions Desnoyers, 7 rue Desnoyers, 21 160 Périgny-les-Dijon contre 10 euros. Et si on veut connaître mieux la poésie de Colette Andriot, on trouvera chez Gros Texte trois livres, « Pendant que me revient l'odeur des foins »,« Au coin d'une rue » et « Pourquoi pas 2005 ». Et aux éditions de La Renarde Rouge, « Pattes d'oiseau, pattes de chat » avec des illustrations de Luce Guilbeault. Eh bien, bonne lecture et à bientôt.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un nouveau coup de cœur, cette fois-ci pour un livre qui s'appelle « Éparpillement » de Camille Loivier, qui vient de paraître aux éditions Isabelle Sauvage. Donc, avec ce nouveau livre, Camille Loivier nous invite à revisiter les maisons, les objets, les souvenirs et tout ce qui nous évoque. Le lecteur les convie dans ces lieux, mais c'est surtout dans la langue singulière de Camille Loivier qu'il est invité. Elle a des mots simples, mais surtout des images nouvelles. Elle possède le don de toucher le lecteur en créant un univers où chacun va se retrouver. Alors moi, j'ai lu ce livre par petites touches. Je l'ai lu avec lenteur pour me laisser infuser par le charme de cette voix qui est vraiment singulière. Donc Éparpillement, c'est une maison, son passé, une maison que l'on vide alors que tout ramène au souvenir, à commencer par les objets auxquels l'auteur s'identifie. Les objets sont personnifiés, ils sont tellement vivants que le livre, il en prend une dimension vraiment très particulière. Par exemple, elle dit « Je suis la chaise, beaucoup plus tolérante, on ose à peine s'asseoir car je suis fine et délicate. » Ou bien « Je ne fais pas ce que je fais ici dans une maison inhabitée, le dehors est là, mais je ne le vois pas, je lui tourne le dos. » À chaque fois, la maison se remplit, puis se vide. Une seule personne garde sa maison jusqu'au bout. Oui, vraiment, la prose et les vers de Camille Loivier se remplissent et se vident. Ils quittent une histoire pour en fabriquer une autre, ou bien reviennent à ce qui nous fonde. Les meubles y prennent voix. Le salon, la lampe, la chaise s'animent. Ils rendent compte du nombre d'années nécessaires pour habiter une maison. Le jeu, c'est tour à tour la narratrice, ça peut être l'horloge, un cahier, une petite table. Elle donne aux phrases une force vraiment insoupçonnée. Par exemple, elle écrit de l'horloge « Quand je m'arrête, c'est que vous êtes mort avant moi. » Donc c'est vraiment une réflexion autour du lieu, de la façon dont nous fixons quelque part, de la façon dont on habite une maison, ou plutôt la façon dont la maison nous habite. Et il faut du silence et ne rien faire, s'abandonner au lieu, au point de disparaître. Au-delà du lieu, les objets et leur histoire, il y a une capacité à durer, à traverser le temps, la mémoire. Elle écrit, par exemple, Camille, « Laissez-nous continuer notre histoire, et sans doute la plus longue. » Comment se forme la mémoire des lieux ? Par des traces, on devient des paysages. Et donc, les objets ici peuvent avoir appartenu au grand-père, au père, à une domestique. Il est porteur de mémoire vraiment particulière et de tout ce que, nous sommes faits. Et c'est la maison dont je suis, le début et la fin. La narratrice, transportée par les mots, devient même sa propre mère, sa grand-mère. Elle fait revivre chaque chose, chaque personne et les époques d'avant et après-guerre. Elle ravive les ancêtres et le disparu. Elle écrit « Je suis la mère, la grand-mère disparue. Avant de l'avoir connue, je suis les générations qui tournent et retournent sur elles-mêmes. » Le jeu de Camille Loivier prend toutes les tournures. Passage du temps, le temps a disparu, qui évoque également actualité, histoire, humanité. Nous sommes les objets noirs, russes ou bulgares. Nous sommes des réfugiés, partout on nous rejette. Nous aimerions tant pouvoir nous installer ici, écrit-elle. Donc, de par sa construction, sa forme, l'écriture maîtrisée et moderne, on ne peut que tomber sous le charme d'éparpillement, car chacun possède une maison vide, abandonnée, dans le coin, un coin de la mémoire. Pour chacun, une maison se cache aussi dans la solitude. Donc, en fait, ce livre est écrit en 3 cahiers. Il comprend tout de même 136 pages. 3 cahiers qui semblent avoir été apportés avec soi, de maison en maison. C'est vraiment une écriture dans la durée, une vraie réflexion autour de la maison, des lieux et des objets. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce livre qui, vraiment, moi, m'a beaucoup touchée. Et avant de vous quitter, je vais vous lire un petit passage. Je suis l'horloge. Je suis restée dans la cuisine pendant 20 ans, à marquer le temps. Vous pouvez penser, une horloge de cuisine, ce n'est pas grand-chose. Inutile de perdre son temps. À l'écouter, mais c'est moi qui pousse les aiguilles, accélère le temps, qui prend vos vies. C'est moi, en cette cuisine glacée, hiver comme été, le dos collé contre la porte d'entrée, elle-même fermée d'un mur, pour que rien de l'extérieur ne traverse avec la peste ses misères. Le monde est immonde, affreux, laid, répugnant, celui des hommes tous vils qui ne pensent qu'à s'entretuer à l'intérieur de ces murs. Règne la paix et la caresse. Ce n'est qu'en affrontant le silence qui en dit long sur nos vies, que cesse enfin l'effondrement. Tout cela sonne creux. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Au revoir.
Un grand merci à Cécile Guivarche que nous aurons le plaisir de retrouver dans 4 semaines pour sa prochaine chronique. Avant de tirer ma révérence, je vous laisse dans les mains expertes du poète Patrick Jokel pour un coup de cœur perso, lui aussi. On se retrouve dans 15 jours, très exactement, pour la prochaine édition de La Route Inconnue. Excellente fin de journée à toutes et à tous, à l'écoute des programmes de Radio Rentiel, évidemment.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du dernier petit livre de poésie de Claude Elde, qui est paru aux éditions Gros Texte en 2017. Son titre, D'ici. Claude Elde est un guetteur, un observateur. Ses poèmes en témoignent avec cette tonalité de voix si particulière, douce, fine et précise. Il se joue des mots autant que les mots se jouent de lui. Il se tient là, sur le seuil du monde, et avec autant de froideur objective que d'humour bienveillant, il le croque en quelques lignes. De l'absurde, de l'humour, et toujours en filigrane de l'essentiel humain. Un recueil qui y résiste. On prend le temps de le lire, de le relire, d'écouter et d'entendre cette ligne mélodique, de la laisser entrer et cheminer. Les lecteurs peu pressés par le verbe, sauront apprécier ces vues d'ici. Trois poèmes pour donner un avant-goût de ce que l'on peut rencontrer dans ces pages. On tient. On tient à être là. Là est une façon de parler. Parler est plus facile à dire qu'à faire. Un mot nous touche parfois, comme une main, comme une lèvre. Ça tient à nous, ça tient à un fil. On a du temps. Sur le bout de la langue, le temps est une denrée périssable. On essaie de durer, ça laisse un goût. Parallèle. Les enfants parfois font le mort, les insectes aussi. Le jeu consiste à rester longtemps sans bouger. Si l'on chatouille le corps avec une brindille, l'insecte demeure impassible. L'enfant, non. La brindille, naturellement, n'a aucune opinion. Elle ne saura jamais imiter la mort. Un extrait, un très court extrait d'un poème. Une langue de terre ne parle pas, une langue de bois, si. Et pour terminer, un poème qui s'appelle Environ. De petites maisons ouvrières avec leur jardin grillagé, des personnes dehors parlent d'une autre personne, absente, pour cause de mort naturelle. Les voix, emplies de buée, ne portent jamais au-delà de la quatre voies où ça roule, sans répit, dans les deux sens. Donc un livre de Claude Held, aux éditions Gros Texte, son titre « D'ici ». Bonne lecture et à bientôt.
أولاد الأصول اللي تابعين طريق جدادنا.